Voice of Indonesia.
Bonsoir, chers auditeurs. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour l'édition aujourd'hui, le jeudi, le 4 avril 2019. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes et nous commençons par le journal, le commentaire, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici donc le journal. Nous commençons avec les titres. L'Indonésie et les États-Unis ont déclaré la création de nouvelles zones de conservation au Maluku du Nord. L'Indonésie est un pays partenaire de Hannover Messe 2020. L'Indonésie et la Corée du Sud ont signé un mémorandum d'accord sur l'échange de données de certificats d'origine. La BAD indique que la consommation des ménages renforce l'économie indonésienne en 2019 et 2020. Le dernier rapport INDEF a dit une action en justice pour la discrimination dans le domaine de l'huile de palme auprès de l'OMC le permet. Et enfin, l'Agence d'économie créative encourage les entreprises créatives à pénétrer le marché de l'exportation. Voici le journal complet. L'Indonésie et les États-Unis ont déclaré la création de 3 zones de conservation marine au Maluku du Nord dans le cadre de la commémoration de 70 ans de relations diplomatiques entre les deux pays dans le secteur de la mer et des pêches. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur des États-Unis, Joseph R. Donovan Jr., à l'occasion du 70e anniversaire des relations diplomatiques entre l'Indonésie et les États-Unis dans la région de l'île de Morotai mercredi. Dans la déclaration, le gouvernement des États-Unis était représenté par l'ambassadeur des États-Unis en Indonésie, Joseph Donovan Jr., et le gouvernement indonésien par le sous-gouverneur des Maluku du Nord, Muhammad Natsir Toyib, et le régent de Morotai, Beni Laos. La détermination de la zone de conservation marine de 226 000 hectares devrait être utile pour protéger la biodiversité marine, améliorer la gestion des pêches durables et promouvoir le tourisme marin au Maluku du Nord. L'Indonésie s'est imposée comme l'une des plus grandes puissances industrielles d'Asie du Sud-Est au plus grand salon mondial des technologies de fabrication par sa présence en tant que pays partenaire officiel de Hannover Messe 2020. Cela a été dit par le directeur par intérim de la Direction générale de la résilience régional et accès industriel du ministère de l'Industrie, M. Ngakan Timur Antara, mercredi à Jakarta. La détermination de l'Indonésie en tant que pays partenaire officiel de Hannover Messe 2020 a eu lieu lors d'une conférence de presse à Hannover le 2 avril 2019, en marge de Hannover Messe 2019. Cela a été marqué par le transfert de la position de pays partenaire de la Suède en tant que pays partenaire officiel de Hannover Messe 2019 à l'Indonésie. L'Indonésie et la Corée du Sud ont signé un protocole d'accord concernant l'échange de certificats d'origine de données ou l'échange de données de certificats d'origine électronique pour faciliter la mise en œuvre de l'accord de libre-échange afin de renforcer la coopération commerciale entre les deux pays. Le protocole d'accord a été signé par le directeur général du commerce extérieur du ministère du commerce, Oke Nurwan, le directeur général des douanes du ministère des Finances, Heru Pambudi, le chef de l'institution du guichet unique national, Jat Miko, et le commissaire des services douaniers coréens, Kim Yung Moon. Le directeur général du commerce extérieur du ministère du commerce, Oke Nurwan, a déclaré mercredi à Jakarta que les deux pays avaient convenu d'échanger des données afin d'améliorer les services commerciaux, la mise en œuvre de la facilitation du commerce et l'efficacité des coûts de transaction du commerce. Le dernier rapport de la Banque asiatique de développement, BAD, indique que la consommation des ménages peut être un facteur de renforcement de l'économie indonésienne qui devrait atteindre 5,2% et 5,3% respectivement en 2019 et 2020. Le directeur de la BAD pour l'Indonésie, Winfried Wicklund, dans un communiqué à Jakarta mercredi, a déclaré que, soutenu par une gestion macroéconomique solide et une demande intérieure forte, l'élan de croissance d'Indonésie devrait se poursuivre de manière saine. Wicklund a ajouté que, pour encourager une croissance économique plus durable et inclusive, l'Indonésie devait en continuer à chercher à accroître sa compétitivité, à développer ses ressources humaines et à renforcer sa résilience. L'observateur de l'Institut pour le développement de l'économie et des finances, INDEF, Imaduddin Abdullah, a estimé que les tentatives de faire l'action en justice sur la discrimination de l'homme exercée par l'Union européenne auprès de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, sont le dernier recours et étaient possibles. Imaduddin expliquait mardi à Jakarta. Plusieurs considérations devaient être prises en compte lorsque le gouvernement indonésien entendait une action en justice devant l'OMC. Mais la décision de discriminer l'huile de palme est une décision qui est décidée politiquement au Parlement européen et selon Imaduddin, il était assez difficile d'approcher à nouveau l'un après l'autre de ces pays membres. Auparavant, le ministre indonésien de la coordination des affaires économiques avait souligné que le gouvernement prendrait des mesures pour lutter contre la discrimination sur le palmier à huile, notamment pour porter le différend à l'OMC. L'ambassadeur de l'Union européenne en Indonésie, Vincent Guérin, a déclaré que l'Union européenne est prête à agir si l'Indonésie entendait une action en justice liée à des différends et à la discrimination des produits d'huile de palme indonésien par la région de ce pays via l'OMC. L'Agence d'économie créative, BECRAF, s'efforce à encourager les entreprises créatives, en particulier dans le sous-secteur des produits alimentaires et des boissons en Indonésie, à améliorer l'accès au marché non seulement au niveau national, mais également au marché international. Le directeur de l'accès non bancaire de l'Agence d'économie créative, Sheifullah Agam, lors de la socialisation de la nourriture créative 2019 à Malang, Jawa Oriental, a déclaré mardi que sa partie s'est forcée à ouvrir l'accès aux marchés internationaux pour des entreprises nationales, en particulier pour des pays de la région asiatique. Sheifullah a expliqué que l'un des programmes initiés par l'Agence de l'économie créative pour améliorer l'accès aux marchés intérieurs était Creative Food ou la nourriture créative. L'Agence de l'économie créative ferait coration aux produits avant d'être facilité pour l'accès aux marchés. À l'heure actuelle, Sheifullah a ajouté, sa partie a réalisé diverses collaborations avec les parties prenantes concernées, comme ministre des Affaires étrangères et ministère du Commerce. Secrétaire, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Voice of Indonesia. Chers amis de l'antenne, après le journal, maintenant, c'est le temps pour nous de vous présenter le commentaire et pour le titre, renforcer l'intérêt pour la lecture par le biais du mouvement national de l'alphabétisation. La journée mondiale du livre pour les enfants est commémorée chaque 2 avril. Cette commémoration a pour but de favoriser l'habitude de lire et de cultiver l'intérêt pour la lecture. En ce qui concerne l'intérêt pour la lecture, plusieurs études montrent que l'intérêt pour la lecture chez les Indonésiens est assez faible. Cependant, les recherches menées par Global English Editing en 2018 sur le pays qui passe du temps à lire, le résultat est assez étonnant. Cette étude montre que l'Indonésie se classe au 16e rang, mieux que l'Argentine, l'Allemagne et le Canada. L'Inde est le pays qui suscite le plus d'intérêt pour la lecture, avec plus de 10 heures de lecture par semaine. En Indonésie, le nombre d'heures est au-dessous de 6 heures par semaine. Cependant, ce n'est pas la réalisation finale. Il doit y avoir des efforts continus pour maintenir et même accroître l'intérêt pour la lecture. Cette augmentation de l'intérêt pour la lecture est bien entendu indissociable du rôle du gouvernement, du secteur privé et de la communauté. le ministère de l'Éducation et de la Culture de la République d'Indonésie, par exemple, continue d'optimiser la culture de l'alphabétisation. Depuis 2016, le ministère de l'Éducation et de la Culture a intensifié le mouvement national pour l'alphabétisation, ou GLN. En train de bouger, pas moins de 10 trillions de rupiahs sont alloués au développement de la culture littéraire. La loi numéro 3 2017 sur le système de comptabilité stipule que les livres éducatifs en Indonésie doivent être de haute qualité, abordables et équitablement distribués. Ainsi, dans le but de soutenir le mouvement national pour l'alphabétisation, le ministère de l'Éducation et de la Culture et l'Association indonésienne des éditeurs, ICAPI, ont signé un protocole d'accord mardi pour améliorer la fonction et le rôle de livreur sur l'éducation et la culture en Indonésie. Le mouvement national pour l'alphabétisation est un effort visant à renforcer la synergie entre les principales unités des agents du mouvement pour l'alphabétisation en rassemblant tous les potentiels et en élargissant la participation du public au développement et à la culture de l'alphabétisation en Indonésie. Ce mouvement s'effectue de manière approfondie et simultanée de la sphère familiale aux écoles et aux communautés de toutes les régions de l'Indonésie. L'amélioration de l'alphabétisation nationale doit s'inscrire dans un mouvement national intégré. Le mouvement pour l'alphabétisation est la responsabilité non seulement du gouvernement, mais également de toutes les parties prenantes, notamment le monde des affaires, les universités, les organisations sociales, les activistes de l'alphabétisation, les parents et la société. Par conséquent, la participation du public à toutes les activités d'alphabétisation est très importante pour assurer l'impact positif du mouvement visant à accroître la compétitivité nationale. Secrétaire, c'était le journal pour ce soir. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia avec l'histoire d'aujourd'hui, le 4 avril. On commence par le 4 avril 1968, le meurtre de Martin Luther King. Martin Luther King, un prêtre noir de l'église baptiste de Montgomery, en Alabama, a été tué à l'âge de 39 ans par James Earl Ray à Memphis, dans le Tennessee. Martin Luther King a été impliqué au mouvement des droits civiques de 1954 à 1968. Il est connu pour revendiquer les droits civils par le biais de la non-violence et de la désobéissance civile. On se souvient de King pour son discours « I have a dream » ou en français « J'ai un rêve ». Il a décrit un jour « Cette nation s'élèvera et croira » ces vérités sans condition, que tous les humains sont créés égaux, blancs et noirs unis. Martin Luther King a également reçu le prix Nobel de la paix en 1964. Le 4 avril 1975, Microsoft a été fondée par Bill Gates et Paul Allen. Le 4 avril 1975, William Gates et Paul Allen ont fondé la Microsoft Corporation à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. L'activité de Microsoft consiste à développer des dispositifs technologiques en développant des systèmes d'exploitation et des logiciels pour ordinateurs. Microsoft Corporation est une multinationale américaine située à Redmond, Washington et aux États-Unis qui développe, fabrique, concède sous licence et supporte une variété de produits et services liés aux ordinateurs. Microsoft est le plus grand fabricant de logiciels du monde. Le 4 avril 1979, Zulfikar Ali Bhutto, ancien premier ministre pakistanais, a été exécuté. Après le coup d'état de son règne, la position de Zulfikar Ali Bhutto est devenue erratique au Pakistan. une série d'allégations visées à Libuto de la corruption à d'autres intrigues politiques du régime militaire dirigé par le général Zia-ul-Haq. Le point culminant a été l'exécution de la peine de mort sous la pression du général Zia-ul-Haq, chef du coup d'État, qui est finalement devenu président du Pakistan. Chers auditeurs, voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Yang selalu mengalun indah, engkau bagai darah yang mengalir di nadi ini, di dalam hatiku tiada yang lain selain yang aku cinta. Saat ku kuat terjatuh, ku ingin kau selalu ada. Berjanjilah engkau tak akan pergi meninggalkan. Selalu membuatmu bahagia, namun ku kan mencoba untuk selalu setia padamu. Di dalam hatiku tiada yang
voilà la chanson intitulée Melody, ou en français Le Melody, chantée par The Massif. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde. Chers auditeurs, voici mon Indonésie.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici mon Indonésie intitulée. Les Nations Unies ont adopté une résolution sur la gestion des récifs coralliens en Indonésie.
Les Nations Unies ont adopté un projet de résolution sur la gouvernance durable des récifs coralliens proposé par l'Indonésie lors de la 4e Assemblée des Nations Unies pour l'environnement ou ANUE à Nairobi, le Kenya, le week-end dernier. Le projet de résolution a été rédigé par l'Indonésie et Monaco avec le soutien du Mexique, des Philippines et de la Corée du Sud. L'Assemblée de l'ANUE est la plus haute instance décisionnelle au monde dans le domaine de l'environnement qui a produit un certain nombre de résolutions et appelle à une action mondiale pour résoudre des questions environnementales dans le monde. La délégation indonésienne était représentée par le personnel expert du ministre des Affaires communautaires et des relations interinstitutionnelles du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, M. Suseno Sukoyono. Il a dit que c'était la première résolution adoptée sur un total de 23 résolutions adoptées au cours de la session. Dans sa déclaration officielle lundi, M. Suseno a déclaré que l'un des paragraphes de la résolution invite le monde à traiter du commerce de poissons de récifs vivants destinés à la consommation, parce que la consommation de poissons de récifs vivants est très répandue dans les pays de l'Asie Pacifique. Cette résolution encourage également les pays membres à participer au réseau mondial de surveillance des récifs coralliens afin de compiler des rapports sur l'état des récifs coralliens en 2020. Cette résolution est importante pour le monde parce qu'elle nécessite une harmonisation et une coordination entre les pays pour mettre en œuvre des politiques relatives à la conservation et à la gestion des récifs coralliens au niveau international, régional et local. Pour appliquer la résolution adoptée, l'Indonésie et les autres pays qui l'aident, y compris le secrétariat de l'Agence mondiale pour l'environnement, ont rédigé un cadre et un calendrier pour la mise en œuvre des mesures connexes. Le directeur général de la gestion de l'espace marin, M. Brahmantia Satyamurti Purwadi, a déclaré que l'existence de récifs coralliens pour les écosystèmes marins ne représente qu'environ 1% de la superficie marine totale de la planète. L'existence de récifs coralliens est très importante pour l'écosystème marin parce qu'elle abrite le quart des espèces marines dans le monde. Au cours des dernières décennies, le monde a perdu environ 50% des récifs coralliens en raison du changement climatique et du comportement humain. Les récifs coralliens offrent également le potentiel de services environnementaux d'une valeur de 11,9 trillions de dollars américains par an pour la population de 500 millions d'habitants dans le monde. C'était la rubrique Modernisie de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Vous êtes toujours avec nous à l'onde courte de 33 de 5 kHz. Vous pouvez écouter aussi notre émission par le site web de www.voynews.id. Bon, chers auditeurs, voici le magazine culturel, la rubrique qui vous présente le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Merci d'être fidèle à la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, maintenant nous allons vous présenter un magazine culturel intitulé The Caldera Toba Nomadic Escape. Le 4 avril 2019, une destination de classe mondiale a été lancée dans la région du lac de Toba au nord de Sumatra. C'est The Caldera Toba Nomadic Escape. Selon le chef de l'équipe d'accélération nomade du ministère du Tourisme, M. Wesley Darwin, The Caldera est un tourisme nomade étant développé par l'agent de mise en œuvre de l'autorité du lac de Toba. Il se trouve dans la zone de l'autorité touristique du lac de Toba, dans le district de Ajibata, la région de Toba Samosir. L'attraction touristique de Caldera offre un charme de paysages exotiques. Vous pouvez voir la beauté du village touristique de Sigapiton et la beauté de la nature depuis le point flanqué des collines à droite et à gauche et des vues sur le lac de Toba et aussi l'île de Samosir. En tant qu'attraction touristique de classe mondiale, la Caldera est équipée d'une variété d'installations attrayantes, entre autres la Caldera Amphithéâtre d'une capacité de 250 personnes, Caldera Plaza, Caldera Stage et Caldera Hill. La Caldera peut également accueillir 50 touristes qui veulent rester dans l'installation de glamping. C'est l'abréviation de Camping Glamour. Les principaux segments de touristes visitant ici sont les nomades, les millénaires et les familles. Pour ceux d'entre vous qui sont intéressés à visiter cette attraction touristique, vous pouvez voyager environ 20 minutes en véhicule motorisé depuis la ville de Parapat. Si vous passez par l'aéroport de Silangit, vous voyagerez pendant 2 heures. The Caldera Toba Nomadic Escape est construit sur un terrain d'environ 1,5 hectare. La construction dans la zone d'autorité est effectuée par l'agent de la mise en œuvre de l'autorité du lac de Toba depuis février 2019. Lors du lancement de Caldera le 4 avril, il y aura Toba Coffee Show. Ce festival de café est un moyen de présenter le café du lac de Toba à la communauté. On organisera également un spectacle gastronomique de Toba. Il y aura également un bon dîner dans le style des hôtels 5 étoiles, tout en profitant d'une vue magnifique sur la vallée de Sigapiton et le lac de Toba. Pour ajouter au confort du lancement de la Caldera, 10 tentes et 2 cabines sont préparées pour les invités qui passeront la nuit. Chers amis, c'était le magazine culturel de la Voix de l'Indonésie à Jakarta.
Voice of Indonesia.
Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu ku kenang. Jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya.
Chers auditeurs, c'était la chanson de Wheezy dont le titre est « Selamat jalan kekasih » qui signifie « Au revoir mon amour ». Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Thank you.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici la rubrique Modernisie intitulée Batam Trail Run. Selon Rizky Handayani, responsable du développement du marketing au ministère du Tourisme, l'une des stratégies de promotion du tourisme est d'organiser un événement touristique, comme par exemple Batam Trail Run 5 km, qui aura lieu immédiatement. Selon lui, cette activité pourrait être un outil permettant d'introduire simultanément le potentiel touristique de Batam. Le Bureau de la Culture et du Tourisme de la ville de Batam a organisé Batam Trail Run 5 km en collaboration avec le site touristique Tebing Langit pour faire progresser le tourisme naturel de Batam et augmenter le nombre de visites touristiques à Batam. Au cours de cet événement, les participants ciblés ont atteint 1500 personnes avec des détails dont 300 étaient des participants ou des touristes étrangers. Le Batam Trail Run 5 km se déroule au site touristique Tebing Langit à la rue Ingénieur Sutami Batam Lestari Sekupang, la ville de Batam, les îles de Riau, le 7 avril. En participant à cet événement, les participants pourront non seulement faire de l'exercice, mais aussi profiter de la beauté de la ville de Batam qui est entourée de magnifiques montagnes et collines. Parmi les participants de cet événement sont figures des communautés, le grand public et des touristes étrangers en collaboration avec des agents de voyage et des associations de tourisme. Les participants sont répartis en deux catégories, à savoir les adolescents âgés de 16 ans et moins et les adultes âgés de 17 ans et plus. Batam Trail Run 5 km sera animé de plusieurs activités de soutien telles que un concours de photos, un concours de coloriage pour les enfants, un concours de gazouilles, un bazar culinaire et des produits de petite et moyenne entreprise. En récompense, le comité a préparé un prix total de 77 millions de rupiahs avec les détails. Le premier gagnant de la catégorie adulte reçoit un prix de 10 millions rupiah, le deuxième gagnant est 8 millions rupiah et le troisième 5 millions rupiah et aussi le quatrième 3 millions rupiah. Alors que pour la catégorie adolescence, le premier vainqueur gagne 4 millions rupiah, le deuxième lauréat 3 millions rupiah, le troisième lauréat 2 millions rupiah et le quatrième 1 million rupiah. Chers amis, c'était la rubrique L'Indonésie en couleur. Merci à tous et à bientôt.
Yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila engkau tak punya harta. Aku tahu kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri. Oh, ku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatanmu yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri.
Voice of Indonesia.
Selalu ada memberi berikan ku kekuatan untuk terus berjuang menjadi yang terbaik. Kaulah alasan aku bisa.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Ahmad Abdul dont le titre est Yang Terbaik ou en français Le Meilleur. Nous continuons notre programme avec les informations musicales et nous allons vous présenter la chanson indonésienne.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia, l'Indonésie à tout le monde. Cette édition, nous allons vous présenter des informations sur une chanson nostalgique d'I Sugiyarti intitulée « Disini aku menanti » ou « Ici j'attends ». I Sugiyarti est une chanteuse très intéressante pour les mélomènes indonésiens. Elle a débuté sa carrière en tant que chanteur depuis la sortie de l'album « Ici j'attends ». Cette chanson raconte de personnes qui s'aiment, mais à cause de la longue distance, parce que son amant est loin pour attendre ses idées. Seule une lettre à ce moment peut guérir le désir des deux personnes qui s'aiment. Cette chanson est assez bien reçue par la communauté. Bon, serviteur, voici donc la chanson d'I Sugiyarti intitulée « Ici j'attends ». Bonne écoute et à demain!
Dalam kata-kata
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. C'est toute l'émission quotidienne en français pour ce soir. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de commenter à notre Facebook Voice of Indonesia. À demain!